Bonjour à tous. Comme un vendredi dans la deuxième partie de la Grande Table, François Hollande, victime de la République présidentielle. On en parlera avec notre invité, l'historien Nicolas Rousselier, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur notamment de « La force de gouverner » chez Gallimard. Qu'est-ce que cette décision nous dit de l'état de la fonction et du sens des institutions? On en reparlera à partir de 12h55. Mais d'abord, B comme Beautiful, la bonne fée des artistes, Agnès B est notre invitée jusqu'à 12h30. Dans Agnès B, styliste, la rétrospective mode parue aux éditions de La Martinière à l'occasion des 40 ans de l'ouverture de sa première boutique aux Halles. Elle aime, dit-elle, habiller les hommes, la photographie, la nuit, ce mystère, le point d'ironie. Avec une certaine idée de l'élégance, la styliste nous parle de ses affinités électives. À écouter maintenant sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Agnès B, comme bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a 2 semaines, vous avez signé, Agnès B, l'appel à cesser le Hollande bashing aux côtés d'une cinquantaine de personnalités du monde de la culture, principalement paru dans le JDD, un procès quotidien en illégitimité, un dénigrement permanent, un acharnement indigne contre le président de la République. Pour citer les mots de cet appel, son renoncement, hier soir, à se présenter, vous a pas surpris?
Aujourd'hui, je suis triste. D'habitude, je suis très gaie le matin, mais là, pas vraiment. Oui, ça m'a attristée. Je pense qu'on a assisté à un lynchage depuis des mois du président d'une manière abjecte et ça me révulse, quoi. Ça me dégoûte un peu, vraiment. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir ce président pendant ces 4 dernières années. On le juge sur 4 ans. Enfin, je ne vais pas développer tout ce que je peux avoir à dire sur le sujet, mais je suis choquée tout de même de la manière dont on a traité ce président.
C'est la conséquence, d'après vous, de ce Hollande bashing, sa décision de se
retirer? Ça dure depuis très longtemps. Moi, j'avais écrit au Monde il y a 1 an ou 2 ans, même 2 fois, j'ai écrit au Monde en disant « mais je comprends pas comment ça va si loin, on peut pas l'accuser de tout ». On en était à dire qu'il fallait le destituer, enfin, au nom de quoi? Heureusement que c'était lui qui était là, voilà ce que je pense.
Agnès B est notre invitée jusqu'à 12h30, styliste, mais aussi féru d'art. Vous exposez une partie de votre collection en ce moment, pas au Musée de la Mode, mais au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, Porte Dorée à Paris. Ce sera jusqu'au 8 janvier. Une collection qui a déjà pas mal bourlingué, des abattoirs de Toulouse au Musée d'Art Moderne de Lille, des œuvres à vous, photos, installations, peintures, vidéos, d'artistes que vous aimez, Claude Lévesque, Henri Cartier-Bresson, Jean-Michel Basquiat, Man Ray, et des œuvres que vous faites dialoguer ici avec les œuvres du musée, celle de Kader Attia, de Jamel Tata ou de Mona Hatoum. Sam Stourdze, le directeur des rencontres d'Arles et le commissaire de cette exposition construite en 11 thématiques. Ça va de la jeunesse à la révolte, de l'écriture à l'amour. Agnès B, quelle histoire avez-vous choisi de raconter avec ce dialogue artistique? Un indice peut-être, l'exposition s'appelle Vivre,
!. Oui, j'ai eu envie de parler d'humanité en fait, de ce qu'on est, de ce que nous sommes, de la jeunesse évidemment, j'ai voulu montrer des œuvres d'artistes que j'avais découvertes très, très jeunes, enfin dans leur vie à eux, en tout cas, puisque j'ai la galerie depuis 83, Galerie du Jour, Quincampoix, ma galerie, c'est un endroit que j'aime énormément.
Et j'ai une galerie, une librairie. La galerie a fait suite à peu près 6 ans après l'ouverture de la première boutique Agnès B au Halles.
Oui, c'est ça. On a ouvert en 83. Cette galerie, et j'ai toujours voulu montrer que j'avais des goûts éclectiques, que c'était la qualité qui dirigeait mes choix. Et j'ai commencé à me faire confiance quelque part dans mes choix, parce que je suis très instinctive, donc j'ai du doute aussi, heureusement. Mais j'ai appris à faire confiance à mon œil. Mon œil m'entraîne vers des choses qui se révèlent finalement être des travaux d'artistes tout à fait beaux.
Des artistes beau, émergents
et dans la distance, dans la longueur.
Des artistes émergents qui deviennent, après des valeurs sûres. Oui. Vous vous souvenez de la première pièce que vous avez achetée? Pas celle qu'on vous a transmise ni offerte, mais vraiment votre premier coup de cœur.
Je dis que c'est jamais des coups de cœur, c'est réfléchi. C'est plutôt des coups de tête.
Alors votre première réflexion cérébrale?
La première, je sais pas, j'ai eu un portrait que m'avait offert une empreinte de Recalcati qui m'avait offerte. C'est la première pièce que j'ai eue, et ça, c'était vraiment dans les années fin 60. Une des premières pièces que j'ai achetées aussi, c'est l'autoportrait de Basquiat. Il n'était pas connu, j'avais vu une œuvre à la Biennale de Paris. J'avais été bouleversée par ce tableau, j'avais voulu savoir qui c'était et j'avais un ami, Philippe Briet, qui vivait à New York et qui est allé dans son atelier, qui a acheté cet autoportrait, un personnage noir qui fait très jeune, il a comme des baskets, mais il a l'air en colère. Et il a aussi du doute et ce dessin, qui est un dessin, je l'ai mis avec deux punaises dans les trous où étaient les punaises de Basquiat. Il est resté au mur comme ça chez moi pendant plusieurs années, en fait. Et c'était, j'avais pas encore une collection, j'avais pas l'impression d'avoir une collection. Mais après, j'ai aimé la photographie grâce à Cartier-Bresson, à Pierre Rémer, qui est un ami à moi, qui un ami de Bernard Faucon aussi.
À Nan Goldin aussi, qui était une de vos
grandes
amies.
Voilà, donc j'ai montré Nan Goldin à la première à Paris, pour la première fois. Martine Parr aussi. Plus tard, pour la photographie, Ryan McGinley, mais il y a eu John Wan, Ewan, tous mes copains graffeurs d'il y a 25 ans. Donc j'aime les graphes aussi depuis 25 ans, je les montre à la Galerie du Jour. J'ai montré Futura, qui est un ami que j'admire infiniment aussi. C'est un virtuose de la bombe, il fait un cercle parfait, comme ça, en appuyant sur la bombe, avec le bras tendu. C'est magnifique de le voir travailler. Donc j'aime des choses vraiment différentes. Alors que j'ai été élevée dans l'amour de la Renaissance italienne, de Versailles, où j'habitais, où je suis née. Donc tout ça, ça m'a influencée. Puis j'ai dessiné aux Beaux-Arts à Versailles en même temps que j'allais à l'école. Je voulais être conservateur de musée. Enfin, j'ai toujours aimé l'art, vraiment, depuis que je suis très petite.
Et vous êtes devenue styliste, mais pas simplement.
Par hasard.
C'est-à-dire que vous mélangez aujourd'hui aussi tous les genres. D'ailleurs, vous pratiquez vous-même la photo, vous en faites des photos.
Oui, ça fait très longtemps que je fais des photos. Et là, dans ce livre qu'on vient de sortir, j'ai voulu montrer que je faisais un travail jusqu'au bout, puisque j'allais jusqu'à prendre les photos de mes vêtements en ayant choisi les mannequins, les attitudes. C'est pas des photos de mode, vraiment. Ce sont des photos de vie, plutôt.
Donner à voir est un privilège formidable, oui. Dites-vous notamment dans ce livre paru à La Martinière. Qu'est-ce qui mérite d'être vu aujourd'hui pour vous, Agnès B?
On a besoin de beauté, on a besoin de belles choses, on a besoin de se régénérer en voyant de belles choses, aussi bien des choses artistiques ou la nature ou le ciel, regarder le ciel pour s'élever un peu, pour décoller de la réalité qui n'est pas toujours drôle, et Dieu sait. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens pour qui la réalité est difficile, hein. La vie est difficile. Donc l'art, la culture, c'est quelque chose qui vous régénère, qui vous fait du bien, qui vous emmène, aussi bien la musique que les arts plastiques. Voilà, heureusement, vive la musique, vive le cinéma, vive la peinture.
Un témoignage à vous faire écouter, Agnès B, celui de Yo-Yo Mag, qui parle de son rapport à l'art, c'était en 2014.
Ça a vraiment fait basculer ma vie. On est effectivement, Duke Ellington est venu voir mon grand-père, qui a fait sortir notre piano dans le jardin. Il est avec ses musiciens et il improvise un blues for Miro, qui est sublime, qui heureusement en plus a été enregistré. Et Miro me dit, tu vois, on est juste tous les deux, hein, Miro et moi, et mon grand-père. Tu vois, Duke Ellington utilise les mêmes notes et le même instrument que Mozart. Alors je comprends pas, il rajoute, j'utilise les mêmes couleurs que Rembrandt. Et pour que je comprenne, il me dit, tu utilises les mêmes mots que Prévert. Mmh. Et en fait, c'est vraiment, il m'explique à ce moment-là que la matière est la même pour tout le monde, Seul l'artiste en fait quelque chose.
Là, Yo-Yo Mag, parlant de sa rencontre avec Duke Ellington et Miro, la matière est la même pour tout le monde, seul l'artiste en fait quelque chose.
Mais oui, et heureusement que l'artiste en fait quelque chose.
Quelle est votre matière à vous? La matière première?
La matière première? C'est la sérénité que j'ai, je crois. C'est ce qui m'aide beaucoup. J'ai vraiment une certaine tranquillité d'esprit, même si je peux être préoccupée par des choses. Je suis positive, je suis optimiste. J'aime beaucoup rebondir. J'aime beaucoup être dans ma tête le matin pendant une heure ou deux pour réfléchir et être dans ma tête. J'adore lire aussi. J'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de rêvasser, en fait, aussi. Et après, la journée est très intense. Je fais beaucoup de choses différentes, avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de bonheur, en fait, en essayant qu'autour de moi aussi, ça se passe plutôt bien pour les uns et les autres. C'est une de mes préoccupations majeures, ça. Puisque je suis avec la base, on fait la création, on est autour d'une table elliptique, comme ça, que j'ai créée pour qu'il n'y ait pas d'angle, qu'on puisse être tout autour.
Comme notre grande table.
Voilà.
C'est ça, une table ronde, presque.
Une grande table comme la vôtre, un peu, oui. Ovale, oui.
Cette matière première, vous dites, la sérénité dans la mode, la matière première c'est aussi le tissu. En quoi c'est important pour vous de fabriquer des habits qui vont travailler sur l'apparence des femmes ou des hommes, sûr, que vous habillez? En quoi l'apparence finalement c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine?
Bien sûr, c'est le vêtement, bien sûr. Moi, je dis toujours, dire je mets n'importe quoi, et la plupart des gens qui disent ça, c'est pas vrai, je pense. Ils ont toujours besoin d'être eux-mêmes à travers le vêtement, de parler un tout petit peu d'eux à travers le vêtement. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner les moyens de parler d'eux sans compter trop. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une matière, une couleur, une forme. Tout ça, c'est mon travail. Pour faire une collection, en fait, je pars de rien au départ. Après, il faut faire des gammes de couleurs, il faut faire les tissus, il faut faire les imprimés, il faut faire les toiles, c'est-à-dire les premières formes, les coupes. Une collection, ça prend des mois à faire. Même si les 15 derniers jours, on est à la bourre, comme on dirait. Vraiment, tout le monde se dépêche, aussi bien les ateliers qui fabriquent nos prototypes en province ou à l'atelier à Paris. Tout le monde se dépêche parce que les tissus arrivent tard, parce qu'on n'a pas tout sous la main quand on le croit. Donc une collection, c'est long et après, c'est très chaud. C'est très à chaud les derniers jours. Mais je fais 4 collections par an, 2 collections hommes, 2 collections femmes. C'est-à-dire que j'ai une collection à faire tous les 3 mois et que je commence en général 6 mois avant la date à laquelle je présente. Donc ça se chevauche tout le temps. Et je suis toujours entraînée vers le futur, puisque mon travail, c'est de travailler toujours pour plus tard. Et donc ça m'entraîne, j'ai une nature comme ça, qui est entraînée par la curiosité, par l'appétit de voir des choses. Donc je suis entraînée vers devant, et donc moi, la nostalgie, j'en ai pas. On a fait ce livre, on a parcouru plein d'images, et je me suis rendu compte que, évidemment, c'était le style qui était là. Puisque des photos que j'ai prises en 83 ou 85, je pense que quelqu'un peut arriver habillé comme ça dans ce studio maintenant et qui serait pas du tout anachronique, quoi. Il serait habillé comme il faut aujourd'hui. Donc mon travail, c'est de faire des vêtements comme ça.
Des vêtements qui durent.
Des vêtements qu'on garde, qu'on remélange autrement, auxquels on s'attache, qui vous donnent confiance. Là, j'ai une jupe qui a 12 ans, j'ai un manteau qui a 15 ans, j'ai un cardigan que je viens de faire, j'ai un t-shirt qui a une étoile blanche parce que j'aime les étoiles et que David Bowie adorait mon t-shirt à étoiles, donc quand on l'a perdu, on était très tristes. Et il s'habillait toujours avec mes vêtements, il adorait mes vêtements. Il y a des gens comme ça, ou David Lynch, que j'habille depuis toujours et qui m'ont fait confiance pour des moments même importants, comme David Lynch qui a tourné un film récemment et qui va sortir bientôt, où il joue son propre rôle, mais entièrement habillé par moi. Il me l'a confirmé.
Et vous avez inventé pour lui. Vous avez inventé pour lui la chemise planète. Hein,
oui, c'est la chemise planète qu'il veut toujours. Oui.
Il veut la même.
Exactement, toujours la même.
Voilà, il est fidèle.
Dans le tissu italien, très doux, très agréable. Voilà, avec des tout petits points, des boutons de nacre.
Et Patti Smith a usé jusqu'à la corde son pantalon rouge, noir, blanc, rayé Agnès B, et sa chemise à imprimer aussi. Il y a ces fondamentaux de vous, Agnès B, effectivement, les il est à pression, le lézard, l'étoile,
oui. Et puis les phrases.
Et les phrases.
J'aime beaucoup faire
les imprimés.
Phrases.
Et à ce propos, vous avez longtemps imprimé, depuis longtemps imprimé ce slogan, cette phrase « Rock and roll is not dead ». Alors c'est vrai, Bob Dylan, les Stones, Paul McCartney, The Who, Neil Young, ils étaient à l'affiche tous du festival Desert Trip en Californie en octobre dernier, qui a attiré plus de 85 000 personnes. Et vous aviez raison, la tendance n'est pas pour l'instant, en tout cas au punk is not dead, mais bien au rock and roll is not dead, comme vous l'imprimiez depuis des années en caractère noir et blanc sur vos t-shirts. Par les temps qui courent, c'est quoi être rock pour vous, Agnès B? C'est juste un style ou c'est quand même encore un état d'esprit, une manière de vivre?
Bien sûr que ça fait partie. Être rock, ça veut dire être prêt à tout, être prêt à être curieux, être prêt à rebondir. Et c'est une liberté aussi, je pense. Et puis, ils nous ont appris beaucoup de choses. Les Doors, Bob Dylan. J'ai revu récemment le film de Pennebaker avec Bob Dylan qui jette des mots à côté de lui sur. Écrit sur des pancartes, entre autres, ce mot qui m'a frappé et que j'ai envie de reprendre, c'est « Protest against the rising time of conformism ». C'est une des pancartes de Bob Dylan qui jette par terre, comme ça, dans ce film de Pennebaker, qui s'appelle comment, je ne sais plus, pardon. Et en tout cas, il vient d'avoir le prix Nobel, il ne va même pas le chercher, c'est rigolo. Mais quand même, le rock parle, le rock pense. Le rock, c'est pas... C'est pas que du blabla, c'est pas que des paroles jetées en l'air. On a dit beaucoup de choses, les Beatles aussi. A Day in a Life, c'est un morceau magnifique. qui se termine très mal par une montée comme ça des instruments. Donc le rock pense, le rap aussi d'ailleurs, hein, il y a aussi des textes magnifiques des rappeurs hein, comme Oxmo Puccino, parce que j'aime pas que le rock, j'aime le reggae, j'aime le rap, j'aime bien sûr.
Mais c'est pour ça que vous avez aussi d'ailleurs toujours soutenu notamment la scène française, mais aussi la jeune scène britannique, côté français, les Chédides, Dao, l'électro versaillaise d'un groupe comme R.
qui sort un album bientôt.
C'est parce que vous vivez en musique, parce que vous avez besoin de musique. C'est aussi
je suis
ça
entourée de gens
que...
qui aiment la musique. Je suis souvent invitée à des concerts, très souvent. Là, j'étais à Bercy avec Placebo, parce que c'est un ami depuis 20 ans. J'ai tout le temps des amis qui jouent, Rachita, que j'adore, avec Rodolphe Burger, qui a joué d'ailleurs au musée de l'histoire de l'immigration. Je voulais préciser que c'était à la demande de ce musée, il y a un an à peu près, que j'ai décidé de faire l'exposition d'une centaine de pièces de ma collection, même moins. Et on a fait un concert avec Rodolphe Burger et Rachita il y a 10 jours, c'était formidable.
Rodolphe Burger qui sera à votre place lundi, si
ah
tout
oui.
va bien, qui sera l'invité de cette première partie de la Grande Table.
Ah bon.
On n'a pas cité Marianne Faithfull, qui était aussi en concert
oui.
la semaine dernière à Paris pour la réouverture du Bataclan, où elle a chanté They Come at Night, la chanson oui. qu'elle avait écrite notamment après les attentats du 13 novembre. Oui. On a parlé de Patti Smith, un mot justement pour vous dire qu'elle a posé pour l'édition, je ne sais pas si vous en souvenez, 2016, du fameux call dans l'objectif d'Annie Leibovitz pour l'édition 2017 du calendrier Pirelli qui vient juste d'être dévoilé. C'est le photographe Peter Lindbergh qui présente ses beautés. Nicole Kidman, Julianne Moore, Charlotte Rampling, Léa Seydoux, Robin Wright, Zhang Ziyi et 6 autres pour les 12 derniers mois de l'année que je n'ai pas cité. Le photographe allemand qui a estimé important à une époque où les femmes sont représentées comme des ambassadrices de la perfection, de rappeler à tous qu'il existe une autre beauté, plus réelle et authentique, non manipulée par la publicité ou autre, une beauté qui exprime l'individualité, le courage d'être soi-même et la sensibilité.
Je peux vous raconter une histoire
et puis... Oui, et après vous me dites ce que c'est que la beauté pour vous.
Non, Peter Lindbergh, il m'a fait monter sur un banc dans les Tuileries pour faire un portrait de moi alors que j'étais enceinte d'Iris, qui allait naître un mois après. Donc il parle de la liberté des femmes ou de sa vision des femmes. Ben, j'en témoigne, je sais comment il m'a prise en photo, moi. C'était drôle, c'était un moment avec le Louvre derrière moi, comme ça. Donc la beauté...
Sa
alors...
définition à lui, elle vous convient ? Exprimer l'individualité, le courage d'être soi-même, la sensibilité
qui aime les femmes et qui les respecte beaucoup et qui aime le trouver chez les femmes justement ce qu'elles ont de personnel qui n'est pas stéréotypé quoi. Je pense que c'est ça qui les intéresse.
Et pour vous,
la beauté,
que la beauté ouais.
J'ai l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert chez moi de ma grand-mère versaillaise et j'ai été rechercher au moment de l'exposition de Jean Doisy La beauté en Avignon la description dans l'encyclopédie. La beauté, ça commence comme ça, c'est le sentiment de rapports agréables. Je trouve ça très beau, en fait. Après, il développe. Mais cette phrase-là, finalement, elle me convient.
Alors, j'ai le sentiment d'un rapport agréable de vous avoir avec nous, Agnès B., aujourd'hui, en ce vendredi. Bob Dylan, qui chante et joue dans Don't Look Back. Vous évoquiez aussi David Bowie, avec des tirages inédits de lui, qui sont signés Mick Rock et qui s'exposent à partir d'aujourd'hui au Multiple à Toulouse, période Ziggy Stardust.
Ah oui.
Ça s'appelle Life on Mars, cette exposition.
Oui.
Et puis, on parlait de votre soutien à la scène française. Vous avez un groupe chouchou, c'est Placebo. Attention, the moment's passed you by. Now is the rest of your life. Dare I to mention your laughter makes me cry. A speck of dust in my eye. And I am unafraid and blessed. les Britanniques de Placebo, Agnès B, le groupe de Brian Molko qui était mardi à Bercy. Vous me disiez hier où ?
Hier soir à Glasgow.
À Glasgow, hein.
Ils sont partis voilà, à la nuit tout de suite après le concert.
Pas à pas pour les camion. 20 ans ouais, de leur premier album avec ce single, Jesus Son, et une tournée mondiale qui s'annonce pour eux. Une musique qui irait assez bien avec la représentation du Christ en croix par Alan Vega qui est présentée dans l'exposition Vivre de votre collection.
Oh, hein, j'aimais beaucoup Alan Vega comme musicien magnifique. Ouais.
Placebo.
Donc il s'est mis à faire des sculptures, Alan Vega, oui.
Placebo, vous les connaissez depuis 20 ans ?
Brian Molko, je le connais depuis presque 20 ans, oui. Il essayait des vestes de femmes chez moi, parce que c'était presque avant que je fasse de l'homme. Il essayait des vestes de femmes, et bon, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est surtout quelqu'un d'extrêmement attachant, extrêmement fidèle. Il a un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Cody, dont je suis la marraine avec ça. On est deux marraines, en fait. Celle qui est son assistante et moi, de Cody. C'est vous dire qu'on est amis, proches. Qu'on s'aime beaucoup, on ne se voit pas souvent, malheureusement, on a des vies remplies. Puis je vis à Londres. Il y a des gens comme ça qui vivent dans d'autres capitales qui me manquent. C'est la vie.
Brian Molko, si vous l'avez connu il y a 20 ans, il était tout petit, alors à ce moment-là, il se cherchait encore. Et Brian, il est venu chercher son.
Il avait les cheveux longs, il était à moitié androgyne. Oui.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Agnès B est notre invitée jusqu'à midi et demi. Festival de cinéma, label de musique indépendant, journal gratuit. On n'a pas parlé de Point d'ironie, des imprimés engagés ou des tableaux en sérigraphie posés sur des t-shirts, des projets artistiques que vous défendez ou des causes humanitaires. Mécène, pourquoi Agnès B ? Vous avez été, vous, soutenue à vos débuts ? Vous avez envie de passer
non,
le relais ?
Non, c'est peut-être plutôt pour ça. J'ai peut-être été soutenue par mes amis. Mais sinon, j'ai pas été beaucoup protégée ni soutenue, en tout cas, avant que j'ouvre la boutique Rue du Jour. Là, à ce moment-là, avec Jean-René de Fleurieux, mon mari, on a fait tout nous-mêmes, on a fait une maison du jour. Et là, on vient de la refaire un peu comme elle était à ce moment-là, avec des étagères en bois, avec des plantes dans la vitrine, pas de vitrine, de la musique. On a remis toutes les musiques qu'on écoutait à ce moment-là, on a remis les affiches de Wim Wenders, l'ami américain. On a refait la boutique comme elle était en 76, là, pour s'amuser. On a même mis deux oiseaux dans une cage, et ils viennent de pondre des œufs dans leur mangeoire. Alors qu'on avait jusqu'à 35 Bengalis qui étaient nés à bord de la boutique, si je peux dire à bord. Une habitude de marin. C'est vrai que la boutique, là, aux trois rues du jour, c'est une boutique homme, mais ça me fait plaisir de la revoir comme elle était. Vraiment. Avec les papyrus dans les fenêtres. Et pas de vitrine, pas de vêtements en vitrine.
On parlait aussi des causes humanitaires et des causes sociétales d'aujourd'hui. L'avortement, le sida, Sarajevo à l'époque, les migrants aujourd'hui. D'ailleurs, un des derniers projets soutenus par la Fondation Agnès B, c'est cet ouvrage « Décampé » de Lampedusa à Calais. Un livre de texte et d'images, un disque pour parler d'une terre sans accueil. Et ça a été fait, monté sous la direction de Samuel Lequette et de Delphine Levergos, à retrouver, le livre vient de paraître, hein, à la oui. Découverte. J'évoquais l'avortement, vous racontez d'ailleurs dans un autre ouvrage que dans les années 70, il vous arrivait de fermer la porte de la boutique pour aller manifester pour
Bien
des
sûr.
Causes qui étaient déjà
Moi,
importantes.
Moi j'ai toujours manifesté depuis que j'ai 17 ans avec les manifestations contre la guerre d'Algérie, ça a commencé là. J'avais une famille plutôt de droite, vraiment, et moi je suis devenue de gauche.
Voilà. Je suis devenue femme et devenue de gauche. Et à ce propos, hier il y avait des débats sur le délit d'entrave en matière d'interruption volontaire de grossesse à l'Assemblée. Les députés ont voté finalement la pénalisation des sites internet qui font de la désinformation. Mais quand même, les débats étaient très vifs. Est-ce que c'est pour vous un signe de l'époque qu'on puisse seulement aujourd'hui, à nouveau, envisager de revenir en France sur le droit à l'avortement ?
Oui, mais on veut revenir sur plein de choses. Alors, tout ce qu'on a acquis, justement, avec les luttes et tout, les manifs, les combats, il faut tout garder. Il ne faut absolument pas remettre tout en question. Ça me fait peur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce conformisme, Même le pape pardonne l'avortement. Voilà, moi je suis chrétienne, hein, j'ai la foi, peut-être c'est ça qui me porte aussi. Et donc même le pape pardonne l'avortement, qu'est-ce qu'on va chercher ? Alors la peine de mort aussi, on peut reparler de ça, on va reparler de tout ce qu'on a gagné. Alors qu'on a vécu les seins nus dans les années 70, à la plage, maintenant tout devient... alors qu'il y a une hypocrisie géante, puisque sur Internet, tout le monde se permet tout. Donc cette hypocrisie me révulse. C'est pareil en Amérique, là. Avec Trump, c'est de l'hypocrisie totale. Vraiment.
Agnès B. toujours en colère.
Je suis toujours radicale.
Dans l'abécédaire qui ouvre l'ouvrage Agnès B. styliste, qui vous est consacré à la lettre D, justement, il y a Dieu que vous dites aimer, puisque vous avez la foi. Et il y a aussi le D de la rue Dieu, au 17, où il y a le siège d'Agnès B. et votre atelier. L'atelier, il est comment? C'est une fourmilière?
L'atelier, on a une dizaine de personnes, hein. Un peu plus même, par moment, au moment des pointes de collection où on prend des... Évidemment, on est obligé de prendre quelques personnes en plus, qui sont très contents de venir travailler chez nous.
Mais dans le travail, vous êtes très solitaire ou vous aimez être entouré?
Non, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Juste le matin, un peu d'air dans ma tête, un peu de rêvasserie. Mais sinon, je ne suis pas du tout solitaire. Je n'ai jamais été solitaire, j'ai toujours eu plein de mes frères et sœurs, puis mes enfants. J'ai toujours eu des enfants. J'ai eu des enfants pour mes 19 ans le 2 décembre. C'est l'anniversaire de mes jumeaux aujourd'hui.
Aujourd'hui?
Oui.
Bon, ben, bon anniversaire.
Étienne et Nicolas.
Voilà. Oui. Merci de venir fêter ça avec nous. Dernière chose, Agnès B., 40 ans après l'ouverture de votre première boutique au Hall, avec plus d'une centaine de boutiques maintenant à travers le monde, vous avez mené la maison Agnès B. Là où vous le souhaitiez?
Non, moi, j'avais pas du tout cette idée-là. Je pensais que je serais tranquille, rue du jour, à faire naître les oiseaux, à arroser les plantes, à créer les robes. Voilà. Donc, ça a dépassé tout à fait ce que j'avais imaginé. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Et puis, je suis contente parce qu'il y a quand même 2500 personnes qui travaillent pour nous dans le monde. Voilà. Plus les emplois induits, puisqu'on travaille à 40% en France. Je me bats énormément pour continuer à fabriquer en France. Parce que je pense qu'on a besoin de travail. Voilà. Et puis, dans des pays émergents, ou en Europe, ou au Portugal, au Maroc. Voilà.
Et Antoine Mercier
vient
de nous rejoindre.
Il y a toujours une idée, une éthique dans nos lieux de fabrication, bien sûr.
Hein, Antoine Mercier qui vient de nous rejoindre pour son journal. Je peux voir l'étiquette de votre chemise?
C'est
pas Agnès B.
Non,
il faudra faire quelque chose.
J'en sais absolument rien,
si vous pouviez me le rhabiller pour le reste de l'année.
Non, c'est gris,
vous êtes occupé de David Bowie, de David Lynch, etc. On peut peut-être faire quelque chose pour Antoine Mercier.
Ça sera plus difficile.
Un énorme merci à vous, Agnès B.
Merci
beaucoup. Je rappelle que l'exposition a commencé au musée de l'histoire de l'immigration à Paris, à la Porte Dorée. Merci mille fois.
Merci.
À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table. François Hollande ne se représentera pas. Retour sur une décision et ses conséquences institutionnelles avec l'historien Nicolas Rousselier, auteur notamment de La Force de gouverner.